Porter plainte de Léa Clermont-Dion. Anne-Marie Aubin l'a lu pour elle et pour nous. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Alors, le livre est publié aux éditions Cheval Doux. Il est paru quand même, c'est pas une publication récente, là.
Non, c'est paru en 2023. C'est un livre de 210 pages et puis il a été finaliste au prix du gouverneur général donc en 2014 et finaliste au prix Jeannette Bertrand, et au prix Jeannette Bertrand en 2024. Puis comme j'aime bien parler des finalistes qui entourent certains prix, qui souvent sont très intéressants puis dont on n'a pas beaucoup parlé, ben, je me suis penchée sur ce livre-là, même si j'avais entendu parler, bon, plus ou moins, de tout ce qui entourait le procès autour de Léa Clermont-Dion. Quelqu'un qui suit ce type d'actualité, mais pas du tout. Mais là, je me suis dit, bon, ben, si deux prix ont retenu ce livre-là, ça vaut la peine que je m'y attarde. Et j'ai découvert d'abord que Léa Clermont-Dion, qui est une jeune fille née en 91, ben, jeune femme, ben, elle a toute une carrière derrière elle. Malgré tout ce qu'elle a vécu, ben, elle a fait beaucoup de publications, de films, de documentaires. Et cette agression, on doit préciser peut-être que ça y arrivait alors qu'elle était mineure. Elle était à une école d'été de l'Institut du Nouveau Monde, qui se déroulait à Québec, avec des jeunes du monde entier qui étaient réunis dans l'espoir de changer le monde. C'est ça. Alors, tu as 17 ans, tu crois en l'avenir, tu crois à tout ce qui est autour de toi. Et c'est là que son maître qui s'occupait d'elle, qu'elle nomme pas dans le livre jamais, mais que tout le monde connaît, ben lui fait des attouchements, l'agresse alors qu'elle est à bord d'un taxi, elle s'en va à son hôtel, et elle fige. Il y a différentes façons de réagir à une agression. Soit on se révolte, soit on fige parce qu'on comprend pas. Et quand on a 17 ans, on a un peu honte, on est mal. Et c'est ce qu'elle raconte. Le livre est divisé en deux grandes parties. Au début, ça s'appelle la reconstitution. Donc, il est question de ce qui s'est passé. Et la deuxième partie, c'est le procès. Mais c'est pas un récit chronologique qui raconte ce qui s'est passé le lendemain et après. C'est différents petits fragments, des petits textes qu'elle date et qu'elle situe aussi géographiquement quand elle est à Mont-Saint-Hilaire, à Longueuil, à Québec, à Montréal, comment tout ça se déroule et comment elle va jouer dans le temps pour comprendre comment ce traumatisme va changer sa vie. Et puis bon, ben, elle avait fait des études, elle a étudié jusqu'au doctorat en sciences politiques. C'est une personne qui lit beaucoup, qui est très instruite, qui a fait beaucoup de livres et de documentaires. Mais dans ce livre-là, la grande différence, c'est que c'est beaucoup plus personnel. Elle a voulu en faire sa version de ce procès. Alors, c'est pas l'idée de se lamenter comme finalement de beaucoup plus aller dans la douleur, le traumatisme. Alors, elle commence par nous dire que suite à ça, elle a vécu vraiment l'enfer en tant qu'étudiante, par exemple. Elle restait avec une grande peur, puis elle s'est noyée dans l'alcool, puis des drogues. Et comment elle s'est refaite, comment elle s'est refait une vie et comment, finalement, elle a fini par porter plainte. C'est le titre du livre. Parce que beaucoup de gens ont vécu des agressions et tout ça comme a été banalisé. Ça fait comme partie de la vie. Quand tu es une fille, ça t'arrive. Et puis, peu de gens vont aller jusqu'à la plainte parce que c'est pas simple, c'est compliqué, c'est long et c'est souffrant. Alors, dans ça, elle dit qu'elle ne veut pas parler de l'agresseur parce qu'elle dit ce récit est le mien, pas le sien. La plainte, pour faire un résumé, s'est faite le 25 octobre 2017. Ça faisait 9 ans qu'elle avait subi l'agression. Et puis, bon, ben, le 23 juin 2021, donc pas mal plus tard, là, il est accusé, puis il est condamné, puis il va aller en appel en 24, puis bref, il va être obligé de faire un peu de prison, pas beaucoup, mais quand même, ça finit par se réduire. Ce qui est intéressant, c'est pas tellement les dates et le procès. Ça a été très, très écrit dans les journaux. Tout le monde en a entendu parler, même à la télé. C'est plutôt les fragments de la vie d'une jeune femme qui va être maman, qui écrit un doctorat, qui écrit des livres, qui fait une fausse couche et qui essaie de se rattacher à la vie quand finalement tout fait en sorte qu'on la croit pas, qu'on la dénonce. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant un peu de cette enquête, Hélène.
Absolument. Oui.
Bon, ben moi qui ne suis pas férue, j'ai appris beaucoup de choses parce que je sais que ça existe, mais ça me déplaît. Et je dois avouer que lire ça, c'est pas drôle du tout. Là.
Non. J'ai pas lu le livre, par exemple, mais j'ai suivi l'histoire.
C'est ça, c'est comme si on était dans son intimité au jour le jour. Et elle raconte que toute jeune, sa mère, qui était indépendantiste, lui fait voir René Lévesque qui est au pouvoir aux élections de 1976. Et à côté de lui, il y a une femme, Lise Payette, qui est la première femme au pouvoir, qui est finalement une féministe. Et puis, bon, un peu plus tard, en 2006, elle participe à un... Léa, jeune fille, là, participe à un colloque à l'UQAM sur le féminisme. Elle passe au point en entrevue et elle reçoit, quelques jours plus tard, le livre de Lise Payette, Le pouvoir connaît pas, dédicacé par Lise Payette, qui lui dit à Léa, parce qu'elle est l'avenir. Là, c'est son idole, elle admire cette femme-là comme une grande féministe. Mais plus tard, suite à quand elle va finalement porter plainte, donc quelques temps après, elle a rendez-vous chez Lise Payette. Elle est toute excitée de ça parce que c'est son idole. Mais renversement de situation, elle est là pour finalement lui faire signer une rétractation, c'est-à-dire un document niant tout ce qu'elle avait dit dans sa plainte. Je la cite. « Je ne trouve pas de mots pour riposter. J'encaisse la peur au ventre. » Pour éviter une éventuelle poursuite, pour soulager la peine de ses enfants, Lise Payette m'explique que je dois signer une rétractation où j'affirme ne pas vouloir nuire à la famille de l'agresseur et exprime mon regret d'avoir parlé de mon agression sexuelle. Mon idole a tout prévu, j'obéis, je tape les mots qu'elle me dicte. Alors là, on est en 2015, et puis bon, ben, elle lui fait finalement retirer sa plainte, et on comprend qu'elle s'est fait manipuler dans cette histoire-là, parce que finalement, il y a quelque chose de politique derrière tout ça. Mais elle est encore très jeune et très naïve, et puis elle est très fragile. Alors, ça, c'est un exemple de ce qu'elle nous dit. Mais il y a l'aspect intime qui, moi, m'a beaucoup plu, celle du récit, celle de son journal, de sa famille, de ses amis proches. Les années ont passé quand elle écrit ça. Elle a un recul par rapport au procès, et elle a été chercher dans son journal qu'elle a écrit pendant toutes ces années-là des extraits qui montrent comment finalement l'écriture est salvatrice quand tu vis quelque chose comme ça. Elle lit des auteurs qu'elle cite comme Annie Ernaux, comme François Sagan, comme Michel Foucault. Elle fait aussi des rencontres très importantes qui vont la marquer au fil de sa carrière en tant que finalement scénariste ou réalisatrice. Et elle nous parle entre autres de Jeannette Bertrand, qui est une de ses idoles aussi.
Elle a même fait un documentaire sur Jeannette.
Oui, Jeannette et ses femmes, qu'on va d'ailleurs rediffuser cette semaine parce que Jeannette va avoir
100 ans.
Jeannette va avoir 100 ans, c'est ça. Et puis, il y a des pages où c'est juste un mot avec la définition. Exemple, culture du viol, prédateur. Et elle constate le pouvoir des mots quand tu écris la littérature, mais aussi dans la langue de la justice. Alors elle ne va pas s'en aller au front toute seule comme ça, elle est entourée. Elle lit des documents qu'on lui donne pour se préparer à propos du langage, la manière de dire les choses, la façon de témoigner, la formulation, afin que tout ça ne se retourne pas contre toi. Tu peux faire une gaffe qui est terrible. Alors, bien entourée, elle va se pratiquer avec eux. Et là, son ami qui est décédé, Daniel Raymond, qui l'entoure, lui dit « Tu vas voir, c'est comme un match de boxe. Tu reçois les coups, t'encaisses, mais lâche pas. » Alors, finalement, c'est pas simple d'aller en cours et d'être face à face avec la personne qui t'a finalement
agressé et qui nie, gâché ta vie.
Oui, et qui nie tout ça. Parce que lui prétend que non, elle lui a fait la bise, elle lui a mis la main sur l'épaule. Mais en tout cas, bref, il y a des manières de jouer avec la vérité, puis c'est ce qu'on se rend compte là-dedans, que ça, lui, il y a des avocats pour se défendre. Fait que finalement, c'est quelque chose qui aussi est rempli de réflexions sur la situation des femmes et sur la justice dans les procès de violence conjugale, par exemple. Depuis plusieurs années, comment est-ce que la chose a quand même évolué, heureusement? Parce qu'on apprend que, selon la loi, une femme mariée était avec son mari, puis elle subissait les viols, puis il fallait qu'elle fasse rien, parce que c'était ça, être la femme de son mari. Mais heureusement, tout ça a changé. Puis aujourd'hui, je remarque que le sujet n'est pas comment je dirais ça, réglé, pas du tout. Je pense à ce qui s'est fait il y a une dizaine de jours, je crois, pour la journée des femmes, la journée des droits des femmes, où les femmes ont fait des chaînes humaines un peu partout dans le monde pour manifester le droit, leur droit, alors qu'on est tout à fait en péril présentement avec tout ce qui se passe socialement et dans le monde. Puis aussi, le fait qu'il y a comme une réaction au fait que les femmes se défendent de plus en plus du côté des hommes, qui disent la justice, rien que pour les femmes, puis nous, les hommes, on n'a rien, puis bref, ça fait des années qu'on abuse des femmes et puis que tout ça doit rester dans le silence. Et elle donne des faits, évidemment, qui étaient dans l'actualité au moment où elle vivait tout ça, comme par exemple le mouvement MeToo, qui est né de certains abus qui ont été dénoncés. Puis
avec l'affaire Harvey Weinstein.
Oui, puis avec ensuite, comment est-ce qu'il s'appelle?
Balance ton port aussi.
Oui, c'est ça. Puis elle nomme les cas qu'on a eus ici autour de nous, dont on a entendu parler. Et puis parfois, comment est-ce que DSK, par exemple, que lui, bon, ben, ça va se tourner contre la personne agressée. En tout cas, c'est là qu'on voit qu'il y a un jeu de pouvoir dans le règlement de ces cas-là.
Ouais, et beaucoup de fric aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, engager des... et là, elle a peur, parce qu'à un moment donné, elle voit, à propos d'Éric Salvay, c'est ça, je pense que c'est lui ou Gilbert Rozon, que son avocat, qui l'a finalement blanchi, est dans la même équipe que son agresseur, là, de l'avocat de son agresseur. Alors, elle a très peur. Alors, l'angoisse de cette personne-là, la force qu'elle a eue de traverser tout ça, puis à travers ça, écrire un doctorat, publier des livres, avoir des enfants, gérer la vie sans s'en venir fou, là, sans venir folle, ben, c'est assez extraordinaire. L'aide qu'elle a eue de sa psychologue et l'écriture, qui pour moi a toujours été dans tout ce que j'ai lu dans ma vie de cas, où tu t'adresses à toi-même, mais en même temps, tu te fais du bien en écrivant tout ça. Tout n'est pas dans le livre, forcément. Elle a choisi des extraits, mais elle a choisi de ne pas se censurer. On le sait parce qu'il y a des choses qu'elle raconte.
Est-ce qu'on a l'impression de lire un journal intime?
Oui, avec aussi toutes les lectures et les informations, parce que c'est lourd à elle. Elle n'arrive pas en cours comme ça. Là. Elle a plein de papiers à lire, des résumés de ce qui s'est dit. Puis,
tout est aussi, documenté.
Oui, puis elle se tient informée des cas qui se passent. Et puis, parfois, sur la route, elle entend ça, puis elle fige complètement en voiture, puis elle doit se concentrer parce que, veut pas, ça te ramène toujours à cette douleur. Et combien de femmes ont vécu des choses comme ça? Je pense qu'il n'y a pas une femme qui n'a pas eu au moins une agression dans sa vie, puis finalement, qui n'en parle pas, ça garde le silence. Alors, le mouvement MeToo, ça a été comme une bombe qui a éclaté et qui a eu ses effets dans différentes villes. Alors, elle va rencontrer, par exemple, une femme en Italie qui lui raconte comment ça s'est passé. Elle va voyager beaucoup grâce à son travail et rencontrer des personnes qui vont la rassurer qu'elle doit continuer. Et puis, c'est ce qu'elle va faire. Elle va se défendre et puis elle est très bien entourée. Puis, elle a une aisance, même si elle souffre terriblement, à dire les choses.
Oui.
Puis elle dit comment elle ressent ça comme des agressions physiques. À un moment donné, elle est dans sa chambre d'hôtel, je crois, puis elle n'est pas capable de manger. Elle n'a pas dormi de la nuit. Elle nourrit sa petite fille parce qu'elle allait, puis elle amène sa petite fille avec elle. Puis elle dit qu'elle entend quelque chose à la télévision qui la fait vomir. Puis c'est exactement physiquement ce qu'elle ressent. Donc, on partage cet aspect-là d'une histoire qui n'est pas drôle du tout. Et je comprends pourquoi ça a été retenu pour le prix Jeannette Bertrand. Et pour le prix du gouverneur général catégorie essai, parce que c'est un essai autobiographique qui est en même temps très documenté. Et par les temps qui courent, avec ce qu'on entend autour de nous, ben, ça peut être pertinent de le lire pour comprendre qu'il faut rester sur ses gardes et ne pas avoir peur de dénoncer, même si la machine est lente et pas facile. C'est ça.
Et j'invite aussi les gens à découvrir « T'as juste à porter plainte ». C'est le documentaire sur la quête de Léa Clermont-Dion qui veut comprendre le chemin de croix des victimes d'agressions sexuelles. C'est sur nouveau.ca. Et puis, vous nous parliez de son livre « Porter plainte » aux éditions Cheval Doux, Léa Clermont-Dion. Grand merci, Anne-Marie.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.